Chapitre 16e. Deux personnes étaient également préoccupées de la nouvelle situation de Henry, mais à des titres différents. C'était le vieux maître et Lady Clarkson. La châtelaine faisait surveiller le jeune homme à Paris. Dès qu'elle connut sa liaison, elle en ressentit à la fois un grand dépit et une grande colère. Puisqu'il s'était laissé aller là-bas aux séductions qu'elle lui avait offertes, c'est que la femme ne lui répugnait pas. S'il en était ainsi, pourquoi n'avait-il pas succombé avec elle plutôt que devant cette petite fille? Tous ceux qui l'approchaient ne disaient-ils pas, la belle Lady Clarkson? Est-ce que cette petite pouvait rivaliser avec elle? La Syrienne, l'avait-on dit, était petite, maigre et brune, tandis qu'elle, dans toute sa maturité de jolie femme, avait les épaules blanches et grasses, la taille haute, des cheveux dorés et des splendeurs de chair pareilles à celles des femmes qui soutiennent la nef de Marie de Médicis dans le tableau de Rubens. Pourquoi lui avait-il préféré cette fille noire? Peut-être avait-elle été trop prudente dans ses essais. Peut-être n'avait-elle pas assez souligné sa pensée. Avec cet enfant incapable de prendre lui-même une résolution, il aurait fallu sans doute brusquer le dénouement, lui donner ce qu'il n'avait peut-être pas osé prendre, en un mot, renverser les rôles. Elle avait compté sur le temps et l'avait laissé partir, pensant qu'elle grandirait à ses yeux pendant cette séparation. Elle s'était dit que lorsque l'atmosphère de la grande ville aurait excité son imagination et irrité ses désirs, il regretterait ce qu'il avait délaissé et reviendrait bien vite à Mareuil chercher le bonheur entrevu. Encore, s'il s'était contenté d'une liaison passagère, cela aurait simplement éveillé ses rêves et lui aurait inspiré le goût de plaisir plus durable qu'il eût trouvé auprès d'elle. Mais non, il était pris dans les lacets d'une fille qui avait réussi où elle avait échoué. Cette gamine le gardait à ses genoux. Elle devenait à la fois la prêtresse et l'idole. Cela ne pouvait demeurer ainsi. Elle lui arracherait Henri ou elle se vengerait terriblement. Toutes ces idées mûrirent promptement dans l'esprit de Lady Clarkson et un plan infernal germa dans sa cervelle de femme. De son côté, le vieux maître avait pensé à une dernière ressource. Il était impossible, s'était-il dit, que le souvenir de Marthe ne soit pas resté vivant dans la pensée de Henri. Cette flamme pure doit être plus forte que la passion sensuelle. Si Madame Mermex consentait à l'appeler à Mareuil, il y viendrait certainement et alors, tandis qu'il effacerait sous les mâts de son esprit, j'irai trouver cette petite et je lui représenterai qu'elle fait obstacle à l'avenir de Henri. Si elle l'aime vraiment, elle doit être capable de se sacrifier. Comme il avait promis à Lady Clarkson de lui porter son Moïse, cela lui fournissait un prétexte suffisant pour aller à Mareuil. Il se rendit donc à Saint-Venant et de là se fit conduire au bourg. Mais au lieu de gagner le château, il s'arrêta devant la maison de Marthe. « Si M. Mermex est là, pensa-t-il, je lui demanderai simplement comment je dois me présenter au château. » Gaston était sorti. Le vieux peintre se trouva tout à fait à l'aise et Marthe lui fit un excellent accueil quand il lui eut dit « Je viens vous donner des nouvelles de Henri. » Doucement et avec des précautions infinies, il lui raconta les débuts de son élève à Paris, son séjour chez Claude Janet, puis ses relations de hasard avec Hakem et finalement sa liaison avec sa fille. Quand il eut fini, des larmes perlaient dans les yeux de la jeune femme et glissaient sur ses joues amaigries. « Pauvre ami, dit-elle, j'ai pourtant bien prié pour lui, mais que pouvais-je faire de plus? Vous pouvez beaucoup, à cette heure. Je crois que vous pouvez le sauver.
Moi?
Oui, madame. Ne lui avez-vous pas promis de l'appeler si jamais un malheur vous menaçait?
Oui.
Eh bien, c'est lui que le malheur menace. Appelez-le ici. Il y viendra, certainement. Votre vue suffira à réveiller tous ses nobles sentiments. Son esprit se relèvera. Le charme qu'il retient là-bas sera rompu, au moins pour un temps, et cela me suffira pour le sauver. Le voulez-vous? Je pourrais vous dire que ce rôle est à la fois pour moi difficile et dangereux, mais si c'est le salut de Henri, je ferai ce que vous me demandez.
Oh, merci, merci. Comme je comprends l'affection et le respect qu'il a éprouvé pour vous.
Ne me remerciez pas. Si mon aide vous fait réussir dans votre tâche, j'y trouverai ma part de bonheur. Que faut-il faire?
Lui écrire.
Quand? Tout de suite, si vous le voulez bien. Marthe s'assit devant un petit bureau Louis XVI se trouvant près d'elle et se prépara à écrire. Elle réfléchit un instant, sa main tremblait. Enfin, elle traça simplement ces mots. « Henri, venez à Mareuil, il faut que je vous voie. Votre amie, Marthe. » À ce moment, Gaston entra. La jeune femme cacheta rapidement sa lettre. « Tiens, dit Mermex, la bonne surprise. Que diable venez-vous faire à Mareuil, cher monsieur ?»«
Je suis venu, dit le peintre, pour voir Lady Clarkson qui m'a acheté un tableau. »« Je ne savais trop comment me présenter chez elle. C'est pourquoi je me suis fait indiquer votre demeure. Je me suis dit, M. Gaston doit se rappeler encore ses jeunes années. Et c'est parti avec Henri dans le vieux cimetière de Chavernay. Il ne me refusera pas de me présenter au château. Et vous avez bien fait. À propos, que devient Henri? Je n'ai pas entendu parler de lui depuis qu'il nous a quittés si cavalièrement. Il ne faut pas lui en vouloir.
Je ne prends pas cette peine, croyez-le bien. J'ai autre chose à faire. Cependant, je serais bien aise de savoir s'il réussit. Il n'a pas cessé entièrement de m'intéresser.
Croyez bien que de son côté, reprit le peintre un peu froissé, vous ne lui êtes pas devenu indifférent.
J'en suis vraiment charmé.
À propos, vous étiez venu pour voir Lady Clarkson. Je vais vous conduire auprès d'elle.
Vous serez bien bon, dit le vieux Job, qui prit congé de Madame Mermeix en mettant tout ce qu'il put de reconnaissance dans son regard.
Il monta avec Gaston dans la voiture qu'il avait amenée et où se trouvait sa toile. 5 minutes après, il s'arrêtait devant la cour d'honneur. Lady Clarkson était dans la galerie.
« Je vous amène l'excellent maître de notre fugitif, » dit Gaston, qui sortit aussitôt.
« C'est bien à vous d'être enfin venu me voir, » dit la châtelaine. « M'apportez-vous mon Moïse ?»«
Oui, madame, il est ici. »«
Ah, voyons un peu. »
Un domestique apparut portant la toile. Le peintre la prit et la posa sur un chevalet de façon à l'éclairer comme elle devait l'être. La châtelaine prit son binocle de vermeil et considéra un moment le tableau.
« C'est parfait, » dit-elle. « Il sera ici en bonne place. Et j'espère que vous viendrez souvent vous en assurer. Si Henri avait continué ses travaux, votre toile aurait été entourée par ses fresques, mais il nous a abandonnés. Les jeunes gens, c'est curieux, ça ne tient pas en place. Paris l'attirait.
Ah oui, Paris. Pensez-vous qu'il y reste longtemps ?
Mais je le crois. Il est retenu par ses travaux, et puis le salon va bientôt s'ouvrir.
Est-ce qu'il expose ?
Oui. C'est parfait, nous irons voir cela. Il en sera bien heureux.
Peut-être,
dit Lady Clarkson avec un mauvais sourire.
Elle montra au peintre quelques-uns des tableaux de la galerie, puis l'emmena au salon.
L'entretien se poursuivit avec beaucoup d'adresse d'un côté et beaucoup de prudence de l'autre. Finalement, la châtelaine demanda au peintre s'il ne voulait pas rester à Mareuil jusqu'au lendemain. Il remercia, assurant qu'il lui fallait partir au plus tôt pour regagner Chavernay le soir même. Après quelques mots de regret, elle le reconduisit jusqu'au seuil où il remonta en voiture et s'en alla satisfait du résultat de sa journée.
« Comment se fait-il qu'il soit allé chez Gaston ?» pensa Lady Clarkson après son départ.
« N'avait-il pas une mission de Henri pour Marthe ? Il faut que je sache cela. »
Elle sonna. La soubrette apparut.
« Vous direz à la domestique de M. Gaston de venir me parler. » La servante de la maison Mermeix avait autrefois servi au château et était à la dévotion de Lady Clarkson. Marthe la croyait dévouée. Elle avait su gagner sa confiance, mais en réalité elle était restée au service de son ancienne maîtresse. Peu de temps après, cette fille arriva.
« Dis-moi, » lui demanda la châtelaine, « il est venu tantôt un vieillard chez ta maîtresse. »«
Oui, madame. »«
Sais-tu quelque chose de leur entretien ?»«
Non, madame, mais notre maîtresse m'a semblé avoir pleuré. » Et après le départ du vieux monsieur, elle m'a donné une lettre pour la remettre au passage du courrier.
« Une lettre ?»«
Oui, madame. Tu l'as encore ?»«
La voici. Donne. »
Lady Clarkson lut l'adresse. Elle mouilla l'enveloppe, la tamponna un peu avec son fin mouchoir, puis l'ouvrit avec précaution. Elle en tira le papier et lut les quelques mots écrits par Marthe. Sa figure se contracta. Un rictus plein d'amertume entoura sa bouche et releva ses narines roses. Elle recacheta la lettre et la rendit à la servante. « Va faire ce qu'on t'a commandé. » Et quand elle fut seule, « Ah, » dit-elle, « je tiens ma vengeance. » Gaston revenait à ce moment, après avoir fumé un cigare dans le parc. Il se jeta sur une bergère.
« Eh bien, vous l'avez expédiée, cette belle tête de vieillard ? C'est celle que Buridan devait revoir dans ses rêves. »«
Vous faiblissez, Gaston, » dit la châtelaine en riant.
« Vous en arrivez maintenant à prendre vos citations dans la tour de Nel. »«
Que voulez-vous ? Je m'embête à mort dans mon home. »«
Eh bien, et votre femme ?
Pouh, je ne m'en occupe guère. »«
Pauvre petite.
Vous la plaignez maintenant ?
Oui, et vous aussi. »
Pourquoi moi ?
Pourquoi ?
Parce que je ne comprends pas que vous délaissiez ainsi une jeune femme. Savez-vous que c'est dangereux ?
Je ne vois pas cela.
Les femmes sont si romanesques, mon cher. On ne sait pas ce qu'elles peuvent chercher autour d'elles dans les jours d'ennui.
Que voulez-vous que Marthe cherche autour d'elle ? Elle va à l'église, dit ses patenôtres avec sa tante, et cela lui suffit.
Vous le croyez ?
J'en suis sûr.
Vous avez une insolente confiance.
Pourquoi ne l'aurais-je pas ?
Au fait, vous avez raison de ne pas être jaloux. Jaloux, moi, et de qui, grand Dieu? D'abord, je n'ai pas cette corde-là. Et puis, je ne crains pas les Roméo à Mareuil. Il n'y en a pas.
Il y en a eu.
Quand donc, sous François Ier?
Oh, il ne faut pas remonter aussi loin.
Voyons, plaisantez-vous.
Mais du tout.
Alors, que voulez-vous dire?
Là, là, vous changez de figure. Je croyais que vous n'étiez pas jaloux.
Non, mais je ne veux pas être joué.
N'avez-vous pas été surpris du brusque départ de votre ami?
Un peu.
Qu'en avez-vous pensé?
Que vous l'aviez effarouché.
Vous êtes bien simple.
Je ne l'ai pas effarouché, je l'ai éloigné volontairement de Mareuil.
Et pourquoi?
Dans votre intérêt.
Vous êtes bonne, mais je ne vois pas en quoi Henri pourrait me nuire.
On ne sait pas. Henri était jeune, votre femme aussi.
Arrivons au but.
Eh bien, j'ai pensé qu'il était peut-être dangereux de laisser votre ami dans le voisinage de Marthe, étant donné la familiarité que votre amitié pour lui l'avait autorisé à prendre.
Comment avez-vous songé à cela?
Certains faits, certains mots insignifiants en apparence, vous savez, des nuances qu'une femme seule sait distinguer.
Enfin, qu'y a-t-il eu entre Marthe et Henri?
Rien, je crois.
Vous croyez?
Dame, je ne puis pas vous l'affirmer.
Mais alors, pourquoi avez-vous tant attendu pour me dire les motifs qui avaient dicté votre conduite?
J'ai attendu, et j'aurai attendu encore, mon ami, si un fait tout nouveau n'avait confirmé mes soupçons et ne m'avait fait un devoir de vous éclairer.
Vous me faites languir, dit Gaston, devenu pâle.
Écoutez-moi avec calme. À la suite de la visite du peintre, votre femme a écrit une lettre à Henri.
Vous l'avez vue?
Oui.
Comment?
Ceci me regarde.
Qu'y avait-il dans cette lettre?
Ces simples mots, Henri, venez à Mareuil, il faut que je vous voie, votre ami, Marthe.
Vous savez cela par cœur,
je pourrais m'en étonner, mais je vous connais trop bien pour cela.
Qu'est devenue la lettre?
Elle est partie à destination.
C'est bien, j'attendrai M. Henri et alors nous verrons.
Vous ne verrez rien, mon cher.
Si, comme je le crois, votre femme a été faible pour votre ami, c'est maintenant chose finie.
Henri a d'autres attachements.
Il a à Paris une charmante petite maîtresse avec laquelle il oublie toutes ses anciennes affections.
Il n'éprouve donc certainement pas le besoin de revenir ici.
C'est votre femme qui s'ennuie sans doute et qui l'appelle pour tâcher de le ramener à ses côtés.
Mais s'il vient, il ne recommencera pas son roman. Un clou chasse l'autre.
Et puis, Henri est un si brave cœur qu'il doit être fidèle à sa maîtresse.
Vous riez, on dirait que cela vous amuse.
Moi, pas du tout. Seulement, je vais vous dépeindre exactement la situation.
J'ignorais qu'Henri eût une maîtresse.
D'où tenez-vous ces détails?
Comme vous êtes curieux, profitez de ce que je sais sans en chercher plus long. Vous désirez vous acquitter entre Henri de ce que vous lui devez, n'est-ce pas?
J'y compte bien, si je n'étais pas dans le doute.
Oui, je sais, un proverbe dit « Dans le doute, abstiens-toi ».
Mais c'est le contraire qu'il faut faire. Il faut se venger d'abord et s'assurer après de l'offense. De cette façon, on n'a rien à regretter.
Que voulez-vous que je fasse?
Prendre sur votre ami une revanche à la fois aimable et originale.
Comment cela?
Je vous ai dit qu'il avait une maîtresse jeune et jolie.
Oui, eh bien, allez à Paris.
Après, enlevez-la lui.
Et comment?
Et Henri?
Henri sera ici.
Ici, auprès de Marthe? Ah ça, c'est un beau de ville.
Vous êtes adorablement naïf.
On ne dirait pas que c'est moi qui vous ai formé.
Quand Henri arrivera à Saint-Venant, je le recevrai et vous pouvez vous reposer sur moi.
Je commence à comprendre.
À moi la fille et à vous.
Cela me regarde, pourvu que je fasse vos affaires.
C'est juste. Savez-vous que c'est très drôle et surtout très cruel?
Si, comme je le pense, tout s'est borné pour Henri à un maribaudage d'enfant.
Le savez-vous?
Allez toujours. Suivez mon conseil, les yeux fermés. Votre tâche n'est pas absolument désagréable.
Je l'avoue, mais peut-être n'est-ce pas très facile.
Enfin, savez-vous où se trouve le nid?
Le jour où notre ami arrivera, et enfin tous les petits détails pouvant faciliter notre entreprise?
Parfaitement.
Lady Clarkson confia à Gaston tout ce qu'elle savait de Souleyma et d'Henri. Elle chercha en outre à affermir ses soupçons et son désir de vengeance.
Enfin, en terminant, elle lui recommanda de ne rien laisser entrevoir à Marthe et de partir dès le lendemain.
Gaston promit.
Quoiqu'il s'efforçât de n'en rien laisser paraître, les paroles vipérines de son ancien ami avaient mordu ce qui lui restait de cœur.
Il partit avec un mauvais sourire.
Tout son fiel lui remontait aux lèvres.
C'était bien le digne compagnon de Lady Clarkson, et le hasard du vice n'avait rien dépareillé en les rapprochant.